Bonjour Bernard Guetta.
Bonjour à vous.
Je précise que vous avez été journaliste pendant de très longues années dans la presse écrite et à la radio.
50 ans.
Oui, rien que ça. En 2019, vous êtes devenu député européen sur la liste de La République En Marche, conduite par Nathalie Loiseau à l'époque. Et c'est aujourd'hui la journée de l'Europe. Vous avez récemment publié un livre intitulé « La nation européenne ». Et pour vous, ça n'est pas une simple aspiration. Cette nation européenne existe déjà.
Mais écoutez, c'est une réalité qu'on peut constater simplement. J'explique par exemple dans ce livre que si l'on prend un avion d'Helsinki à Rome, c'est pas la même chose. La Finlande et l'Italie, c'est même le moins qu'on puisse dire. Eh bien, en atterrissant à Rome, on ne change pas de monde. Alors que maintenant, vous prenez un avion de n'importe quelle capitale de l'Union européenne vers n'importe quel autre continent, vers l'Amérique, vers l'Asie, vers l'Afrique, oui, vous arrivez dans un autre monde. Et c'est là qu'on mesure que, au-delà des différences de langue, Dieu sait qu'elles sont importantes, au-delà des différences d'histoire, de culture, de rapport à l'État, par exemple, de rapport à l'économie, eh bien oui, il y a un fonds commun européen qui est très très fort, qui est très prenant. Et d'ailleurs, les Africains, les Américains, les Asiatiques perçoivent très bien cela. Les Américains ne disent pas « je vais en vacances en France », ils disent « je vais en vacances en Europe ».
Les Français, tout de même, restent assez attachés à une forme de souveraineté nationale. C'est ce que soulignait un sondage qui avait été publié en décembre 2021. 29% des Français se disaient en faveur d'une Europe plus intégrée, avec plus de souveraineté européenne. Mais ils étaient 40% à préférer une Europe des nations, avec davantage de souveraineté des États membres.
Mais vous savez, l'Europe des nations, contrairement à ce que beaucoup de gens disent ou pensent, l'Europe des nations, c'est la réalité de l'Union européenne aujourd'hui. On dit toujours Bruxelles a j'exagère, mais beaucoup trop souvent, Bruxelles a décidé ceci, Bruxelles a décidé cela, ou interdit ceci ou cela. Mais en vérité, tout le pouvoir, et quand je dis tout le pouvoir, je n'exagère pas, tout le pouvoir dans l'Union européenne appartient au Conseil européen, c'est-à-dire à l'Assemblée des 27 chefs d'État et de gouvernement. Ce sont les dirigeants nationaux...
Qui ont parfois eux-mêmes tendance à se défausser sur ce Bruxelles, comme on dit.
Alors oui, absolument. Absolument. Mais c'est de moins en moins vrai. C'était très très vrai jusqu'il y a encore 2-3 ans. Ouais. C'est de moins en moins vrai. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne prend une réalité dans la perception politique des 450 millions de citoyens européens. Moi, je suis très frappé d'une chose, par exemple. Les médias français n'invitaient que très rarement dans leur micro ou sous leur caméra des eurodéputés, quelle que soit leur nationalité d'ailleurs. Parce que bon, le Parlement européen, on savait pas trop, alors un eurodéputé encore moins. Eh bien maintenant, remarquez, et ce n'est pas seulement ce matin au micro de RFI, mais véritablement remarquez qu'aujourd'hui, on entend et on voit de plus en plus les eurodéputés, et pas seulement en France, dans tous les pays de l'Union. L'Union européenne a pris une réalité et a pris cette réalité, je crois, fondamentalement à la faveur de l'élection de Donald Trump, puis de la pandémie du Covid, puis enfin, évidemment, de l'agression de M. Poutine contre l'Ukraine.
Alors, en effet, vous dites donc que l'unité européenne a progressé avec Donald Trump, le Covid et Vladimir Poutine. Est-ce que ça signifie que l'Europe se construirait contre et non pas pour ?
Mais vous savez, on se construit tout le monde, les institutions politiques comme les individus. C'est une banalité de dire que les enfants se construisent contre leurs parents. Bien entendu, c'est toujours comme ça. C'est toujours devant l'obstacle que l'on bande ses muscles, que l'on réunit ses forces, que l'on s'unit pour contourner l'obstacle, ou plutôt d'ailleurs pour surmonter l'obstacle. Cela n'a absolument rien d'étonnant, ni même de décevant. C'est la réalité des choses, toujours. Mais vous avez raison, oui, c'est contre l'obstacle qu'on se définit.
Dans une tribune que l'on peut lire sur votre site internet et qui a été publiée, je crois, sur Libération également, vous envisagez le scénario de la double défaite de Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine et du président turc Erdogan à l'élection présidentielle de dimanche prochain. Et vous regrettez que l'Europe ne se prépare pas à ces bouleversements parce que ces hypothèses, dites-vous, lui donnent une forme de vertige, tant ce serait un saut dans l'inconnu.
Mais vous savez, c'est pire que cela encore. Regardez à Washington. Qu'est-ce qui se passe à Washington? Est-ce qu'on se prépare réellement? Est-ce que la diplomatie américaine se prépare réellement aux conséquences d'une éventuelle? J'insiste sur l'adjectif éventuel. Je ne prédis pas du tout que M. Erdogan sera à coup sûr battu, ni même que M. Poutine, c'est plus probable, sera lui aussi battu. Je ne le sais pas, personne ne le sait. Mais ce que l'on sait en revanche, c'est que ces hypothèses sont aujourd'hui parfaitement plausibles. Eh bien, est-ce que nous sommes prêts, dans les 27 capitales européennes, dans les institutions européennes, à Washington, dans les organisations financières internationales, etc., dans nos journaux, etc., etc., aux conséquences de cela? Ben, j'ai l'impression que non, parce que tout simplement, on n'arrive pas à imaginer, c'est très humain, j'ai vécu cela souvent dans ma vie de journaliste, on n'arrive pas à imaginer les conséquences d'un changement d'une telle ampleur. Vous savez, quand j'étais correspondant du Monde à Moscou pendant la perestroïka et Gorbatchev, eh bien, je voyais bien qu'on n'arrivait pas dans les capitales étrangères, européennes, américaines, etc., à envisager la fin du communisme, alors que pourtant, quand on vivait à Moscou, elle était acquise, elle était évidente. Mais on ne peut pas imaginer quand c'est inimaginable.
Et pour revenir à la Turquie, vous dites, Margaretha, qu'une défaite d'Erdogan poserait un problème à l'Union européenne pour ce qui est de la question de l'éventuelle adhésion de la Turquie, encore plus difficile que ça ne l'a été jusqu'à maintenant.
Mais oui,
paradoxalement,
bien sûr,
de prime abord, paradoxalement.
Ben oui, c'est un complet paradoxe, parce que évidemment que tout démocrate doit ardemment souhaiter la défaite de M. Erdogan, qui est devenu un despote épouvantable. Les prisons turques sont quand même remplies de prisonniers politiques, Mais d'un autre côté, nous savons très très bien que si la démocratie reprend la main en Turquie, et souhaitons-le ardemment, eh bien, ça va poser une série de problèmes très, très compliqués, parce que immédiatement, ces démocrates turcs au pouvoir vont taper à la porte de l'Union européenne et des 27 capitales des États membres en disant, écoutez, vous aviez interrompu les négociations d'adhésion de la Turquie parce qu'il y avait une dictature au pouvoir à Ankara. Ben, il n'y a plus de dictature. Alors, nous voulons les reprendre. Eh bien, évidemment que ce problème-là sera très délicat, d'une part parce que nous avons déjà la négociation d'adhésion avec l'Ukraine qui ne sera pas simple, avec les Balkans occidentaux qui ne sera pas simple, mais alors avec la Turquie, grand pays musulman sont très hostiles les extrêmes droites européennes, ben ça va être un double problème. Il faut le voir, il faut le prévoir.
En quelques secondes, Bernard Guetta, si on imagine que l'opposition peut gagner en Turquie, est-ce que ça n'est pas le signe tout de même que la démocratie n'y est pas complètement morte?
Ah mais j'en suis totalement persuadé. Évidemment que la démocratie n'est pas totalement morte en Turquie, et évidemment qu'il y a une très forte majorité des Turcs qui aspirent à la liberté, y compris certains des électeurs de M. Erdogan qui votent pour M. Erdogan en croyant que cela assurera une plus grande stabilité à leur pays, ce qui est totalement faux. C'est une illusion de leur part. Mais évidemment que la Turquie aspire à la démocratie.
Merci Bernard Guetta. Merci à vous. Bonne journée.